Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes, des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune, que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm et sur la bande FM à Paris, sur le 93.1 et bien sûr sur le DAB+. Vous nous retrouvez également en podcast sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, à lui donner plein de likes et d'étoiles si vous l'appréciez. C'est notre seule récompense. C'est le Thibaut Pinot de Cause Commune. Mais il n'est pas prêt à arrêter de pédaler, hein. Notamment avec son émission Rayon Libre, consacrée au vélo. Merci Jérôme Sorel de t'occuper de la réalisation de cette émission. Merci à Olivier Gréco d'animer cette station associative Cause Commune et de nous donner cette opportunité de parler de data et d'IA. Si vous voulez soutenir la pluralité de la bande FM, n'hésitez pas à faire un don sur Cause Commune. En plus, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66%. Magnifique! Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester pour la première fois ou d'écouter de nouveau cette émission. Merci de revenir. C'est très important pour nous. D'où vient la vague actuelle des IA ? OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT et DALL-E, Californie. Google et son Bard, Californie. Facebook, devenu Meta, et sa suite logicielle open source Llama, Californie. Midjourney, le générateur d'images, Californie. Microsoft, actionnaire d'OpenAI et créateur de Copilot, Redmond, Seattle, État de Washington. Nvidia, le concepteur des puces graphiques GPU indispensables pour faire tourner les modèles de calcul des IA, Californie. Et son fabricant, TSMC, Taïwan. Mais où est l'Europe ? Où est la France dans cette vague si prometteuse et bouleversifiante de nos vies, de nos économies et de nos métiers ? C'est la question du jour. Et pour y répondre, une spécialiste de l'IA depuis 20 ans, elle a été chercheuse, puis enseignante, puis développeuse, puis cofondatrice de start-up spécialisée dans l'IA. Aujourd'hui, elle est directrice d'un des plus grands hubs de l'IA en France. Bonjour, Caroline Chopinot.
Bonjour, Jean-Philippe.
Merci d'être avec nous pour nous aider à comprendre la place de la France dans la vague des IA. Alors, parlez-moi d'IA. La France est-elle un acteur qui compte un petit peu concernant l'IA ?
Alors, la France, c'est quand même un acteur qui compte beaucoup. Depuis de nombreuses années, il y a quand même des forts investissements qui sont donnés à l'intelligence artificielle. C'est quand même une solution issue un peu des mathématiques. Donc la France est très forte en mathématiques.
On a une belle école de mathématiques.
Magnifique. Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle en France, elle est vraiment répartie sur tout un tas de petits acteurs. C'est ça qui fait la différence par rapport aux gros américains que tout le monde connaît. Et c'est ça qui est difficile dans notre écosystème aujourd'hui, c'est d'arriver à rendre lisible cette pluralité d'acteurs et de faire en sorte qu'ils puissent émerger face aux géants américains.
Donc ça, vous allez nous l'expliquer effectivement comment vous structurez finalement cette énergie, ces dynamiques un peu diversifiées. Si on revient deux secondes à vous, ça fait 20 ans maintenant que vous êtes dans ce domaine-là.
Ouais.
Vous ne les faites pas vraiment.
Merci.
Quelles ont été les étapes en fait de votre parcours pour venir jusqu'à la tête de ce hub France, ouais. France IA?
Eh ben, moi, j'ai commencé du coup à faire des mathématiques il y a très longtemps maintenant, et j'ai découvert l'informatique un peu par hasard et l'intelligence artificielle aussi. C'était pas donc on est plutôt dans les années avant 2000, donc c'était pas forcément quelque chose qui était hyper à la mode. En fait, c'est assez fluctuant. On voit les hivers et les étés de l'IA. Tout le monde connaît ces petites histoires. Et c'était à une période où on sortait un peu d'un été. Bon, c'était un peu bof-bof comme période.
Donc les hivers et les étés, c'est les moments où l'IA est florissant, où les labos de recherche ont des moyens. Et puis à un moment donné, finalement, la promesse est pas aussi forte que prévu. Donc c'est l'hiver,
donc ça
se calme un petit peu. Et il y a eu plusieurs phases comme ça.
Oui, il y en a eu deux, trois. Toujours la même... Alors en IA, on a toujours deux façons de voir les choses. On a l'IA symbolique, comme on dit, et l'IA connexionniste à base de réseaux de neurones, machine learning. C'est ce qu'on utilise le plus aujourd'hui. Et ces deux tendances, en fait, fluctuent.
Et se croisent.
Ouais, et se croisent à chaque fois. Donc quand le symbolique ne fonctionne plus, on se remet sur la partie apprentissage et inversement. Et donc nous, on était à une période où... Bon, moi, je viens de l'IA symbolique. Il y a une période où ça marchait plus très bien et où le connexionnisme marchait pas non plus parfaitement.
C'était pas encore au point.
Voilà, c'était pas, on n'avait pas les puissances de calcul encore vraiment à l'époque, à part bon, chez quelques gros qui commençaient à sortir du bois. Et mais en fait, j'ai trouvé que c'était quand même un domaine qui était passionnant de se dire bon bah voilà, on a des systèmes informatiques qui sont capables de prendre des décisions, d'accompagner l'humain. C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et les technologies sous-jacentes, à l'époque, on codait les algorithmes qui sont utilisés aujourd'hui directement sur étagère. Donc il y avait quelque chose quand même d'assez précurseur là-dedans. Et donc j'ai décidé de continuer en recherche avec tous les aléas que ça peut avoir d'avoir des postes de maître de conf.
Ouais.
Du coup, je suis partie dans le privé. Et c'était difficile à l'époque, là on est en 2008, de trouver une entreprise qui soit capable d'afficher le fait qu'elle fait de l'IA. Mmh. Donc là, c'était vraiment un moment où il fallait... C'était un gros mot, hein. C'était vraiment difficile.
C'était compliqué à expliquer, c'était compliqué à faire comprendre.
Ouais, on voulait pas en entendre parler parce que
c'était... C'est fou, quand on pense qu'aujourd'hui, si on met pas un IA quelque part dans le nom de la boîte...
Oui, c'est qu'on est nul. Et à l'époque, si on disait IA, c'est qu'on était farfelu. Donc après ma thèse... Je me suis retrouvée à trouver la seule boîte qui petite à l'époque, parce que les grosses boîtes m'intéressaient pas trop, qui affichait un peu le fait de faire de l'IA. Donc c'était de la simulation d'entraînement pour la défense, parce que forcément c'est eux qui avaient les plus gros budgets sur ces sujets d'IA en France
pour modéliser les situations de crise et de
la gestion de crise et l'entraînement des forces armées.
D'accord.
Et puis après, j'ai jamais voulu en partir, en fait. Donc, avec mes collègues, on a monté une start-up. Du coup, on a fait du machine learning un peu par la force des choses. On
était Vous êtes passé de l'autre côté de la barrière de l'IA.
On était obscur, c'est le cas de le dire, puisque c'était quand même des méthodes un peu plus boîte noire. Et quand on vient de la défense, on est plutôt sur des choses assez transparentes.
Faut
tout comprendre.
D'accord.
Et voilà. Et donc, je pense que aujourd'hui, pourquoi je me retrouve à la tête de cette association, je pense que c'est la volonté d'accompagner cet écosystème, et je suis dans une position que je trouve extrêmement appréciable, c'est que je vois tout un tas de projets se monter, de boîtes grandir.
Et vous êtes passé par là aussi?
Et je suis passé par là, et en plus j'essaye de créer le lien entre les utilisateurs, les fournisseurs, faire en sorte que toute cette communauté IA qui aujourd'hui est extrêmement diversifiée et hétérogène puisse se rencontrer et grandir pour faire grandir la France et l'Europe.
Super. Et donc c'est quoi du coup ce Hub France IA? Pardon, je vais le faire dans le bon sens. Hub France IA. Vous fédérez combien d'organisations, et c'est quel type d'organisations qui viennent se rassembler autour du Hub?
Aujourd'hui, on a à peu près 150 membres. C'est donc des entreprises principalement. On a des grosses structures, on a beaucoup de startups à des niveaux de maturité assez différents. On a aussi depuis cette année, c'est nouveau, des cabinets d'avocats qui nous ont rejoints pour travailler sur les sujets réglementaires.
Ouais. Oui.
On a aussi des écoles, deux ou trois, qui sont pas forcément que sur l'IA, mais qui souhaitent mettre de l'IA dans leur formation. Et des PME, ETI, institutions, un peu à la marge. C'est quand même une association qui, au départ, a été montée par des experts du domaine, des gens qui étaient assez avancés sur le sujet en 2017. Et on a gardé quand même ce côté expertise plutôt technique. Mais j'aime beaucoup la diversité là qu'il y a dans les profils au sein de l'association. Ça génère une dynamique qui est très intéressante.
Il y a des synergies fortes entre les différentes tailles d'acteurs. Du coup, dans les grands groupes qui sont autour de la table chez vous, il y a quel type de groupe?
Alors c'est marrant parce que on n'a pas de gros éditeurs IA, ça n'existe pas franco-français, et donc on n'a pas de GAFAM chez nous. Par souci de souveraineté, on a comme grand groupe des banques, la BNP, la Société Générale, on a la Poste, L'Oréal, la SNCF.
Ah oui,
des acteurs.
Belle référence.
On se dit pas toujours qu'ils ont des actions très fortes en IA, mais en fait, si, ils sont extrêmement bien structurés, ils ont de nombreux projets sur ces sujets-là.
Et ces grands groupes français, ils ont pris la mesure de ce qui est en train de se passer?
Oui, je pense que ceux-là, en fait, ils sont quasiment tous là depuis le début de la création de l'association. Et donc ils sont vraiment structurés en interne, et on voit depuis le début de cette année, avec tout ce qui se passe autour de l'IA générative, qu'ils sont aussi de se mettre en ordre de bataille pour informer les métiers de ce que c'est et de ce que ça va apporter.
Et il y a de nouveaux grands groupes qui viennent vous rejoindre là, qui toquent à la porte?
Alors, on en a en ce moment.
Ouais.
En fait, on a beaucoup de startups hein, qui demandent des adhésions de façon proactive. Et on voit là, depuis quelques mois, je pense, depuis l'arrivée, le buzz sur ChatGPT,
début de,
je dirais qu'une fois par semaine, on commence à avoir des grosses structures
qui viennent voir, quoi.
Ouais.
Qui regardent un peu ce que...
Alors, ça converge pas forcément, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un intérêt de boîtes aujourd'hui un peu grosses qui s'intéressent au sujet.
Une de vos actions phares, enfin une des actions qui a mis vraiment la lumière sur le hub, c'est votre cartographie des startups alors françaises et puis on peut parler d'européennes parce qu'il y a une collaboration. Finalement, est-ce que enfin comment on peut considérer qu'une startup elle est une startup de l'IA?
Oui, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. Nous, dans notre cartographie des startups, alors effectivement qu'on fait à l'échelle européenne, mais nous, on s'occupe du volet France, donc avec l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède. On a essayé de se mettre d'accord sur des critères de ce que c'est qu'une startup de l'IA.
C'est facile avec des Européens de se mettre d'accord sur...
Non, c'était très compliqué, mais bon...
Vous avez trouvé quand même.
On a quand même réussi à se mettre à peu près d'accord. Bon, par exemple, nous, on ne met pas de petites sociétés de services dans notre carto et d'autres pays le font.
Enfin, d'accord.
Ça peut être la divergence. C'est que nous, côté France, on est plutôt parti sur des startups à produits.
Ouais.
Donc, qui ont
et produisent vraiment IA.
Produits qu'on essaye d'identifier qu'il y a vraiment de l'IA dedans. Et en fait, on se dit c'est un différenciant technologique pour eux ou c'est un différenciant commercial. C'est-à-dire qu'ils appuient quand même de façon assez forte le fait qu'ils embarquent de l'IA. Ensuite, on n'est pas capable et on n'a pas le temps ni la volonté de faire un distinguo entre celles qui ont un gros volet R&D en IA et qui vont tout développer maison et celles qui vont s'appuyer sur des technologies existantes ou des modèles existants.
Et qui vont être bons en design, marketing.
Et qui vont vraiment bien l'embarquer. Mmh. En fait, ça, c'est le point un peu touchy où on a du mal à faire la différence. Mais par contre...
Mais du point de vue du client, ça se voit pas finalement.
Ça se voit pas. Je pense que pour nous, ce qui est important, c'est l'usage qui en est fait. Et de toute façon, la tendance étant d'avoir de plus en plus de choses disponibles sur étagère, on peut pas exclure ce type de start-up de cette cartographie.
Et il y a une spécificité de la start-up française dans votre cartographie?
Oui, en fait, mais tous les ans, c'est pareil. En fait, on a beaucoup de start-up sur le secteur de la santé qui sont dans la carto. Beaucoup
santé,
La santé, on est très fort là-dessus. Tout ce qui est aussi industrie, c'est des secteurs qui sont qui ont vraiment la cote en France. Alors peut-être que les autres, on les identifie pas. Mais en tout cas, c'est celle-là qu'on voit le plus.
D'accord. Écoutez, on est déjà à la pause. Ça passe vite. Ouais. Hein.
Bah oui.
Et donc, la pause, c'est la pause musicale. La pause musicale, c'est aujourd'hui grâce à VoiceMy. C'est un service d'IA qui a permis de générer le morceau Cyan de Us, l'enfoiré, et Gazo avec la voix d'Angèle. Ils ont pris la voix d'Angèle et ils ont refait le morceau. C'est super simple à faire. L'interface est hyper, hyper simple. Vous pouvez prendre votre voix et enregistrer quelque chose et mettre la voix après derrière d'une personne connue. Ce petit morceau, il a fait juste 6 millions d'écoutes sur YouTube. et ça a même poussé Angèle à reprendre le morceau vraiment avec sa vraie voix en live. Et on va écouter ça tout de suite, si tu veux bien.
Vouloir et sans faire de magie. J'aurais jamais comment tu souffles, mais je l'imagine. Tout fragile, ton cœur en argile. Elle fait des bisous sur la cheboue, mais j'trouve agile. Faut que tu t'en fasses pour eux, babe, t'en fais pas pour moi. Même si tu t'habilles mal, babe, j'ai assez faux pour nos terres. Quand tu me demandes si j'peux rester encore un peu, mais t'as mouillé tout le pieu. J'veux pas que tu tombes amoureuse. Du ice et de l'or, qu'un crée du corps, l'argent de la mort. J'ai une moula qui sort au volant du Cayenne. Une plante à Marseillaine, je crois que c'est un alien. Mais j'en veux encore. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. On va pas finir l'année, on va se séparer. Sur moi t'atomisé, mais je suis qu'une enfoirée. Je te mentais, je te disais que tu manquais. J'ai pas fini de chanter, comme un ange peut sauter. On s'est tu la sentais. J'étais mal à fille à côté, j'ai pas envie d'accoster. J'ai mis mon cœur de côté. Du ice et de l'or, gun credit card, l'argent est mort. Chez nous là qui sort, au volant du Cayenne. Une blonde comme Marseillaine, j'compte sur un alien. Mais j'en veux encore. Du ice et de l'or, gun credit card, l'argent est mort.
Merci Angèle, enfin merci Voicemail, parce que c'est pas du tout Angèle qui chante en fait. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des idées de morceaux de 2 minutes hein, à passer à la pause, sinon je vais continuer à passer des machins comme ça générés par des IA. Celui-là était plutôt frais, pour le coup c'était un peu moins de la soupe que d'habitude. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode où on s'interroge sur la place de la France et de l'Europe dans le domaine de l'IA, toujours avec Caroline Chopineau, la directrice du Hub France IA, et on parlait cartographie des startups. Vous me disiez en préparant cette émission que bon, c'est sympa de faire la cartographie des startups. D'ailleurs, à quoi ça vous sert aujourd'hui? Comment vous l'utilisez cette cartographie? Est-ce que ça vous sert à bien comprendre
Oui, ça sert à plusieurs choses. Pour nous, Hub, déjà, c'est d'avoir une très bonne connaissance de notre écosystème. Donc, on n'a pas toutes les startups de la Carto qui sont membres de l'association. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une vision un peu plus large de ce qui se fait aujourd'hui et des tendances. Moi, j'utilise pas la Carto en tant que telle, en tant qu'outil, mais j'ai ma petite base de startups. Et quand on me contacte pour savoir qui travaille sur quoi, c'est un moyen aussi de donner l'information. Mais initialement, l'idée de la cartographie, c'était pas juste d'avoir un parterre de logo, c'était d'avoir un outil qui soit utilisable pour les grands groupes, les VC, les PME, pour le gouvernement aussi, pour pouvoir un peu se repérer sur tout cet ensemble de startups, puisque comme je dis, on en a 280, il me semble, aujourd'hui, qui sont référencés. Et c'est peu, mais en même temps, ça fait quand même c'est un énorme. Bon paquet à connaître.
Oui. Surtout que vous les avez expertisés.
Voilà, on les a tous expertisés avec un comité d'experts pour s'assurer qu'elles pouvaient rentrer dans la cartographie.
Et aujourd'hui, ça vous sert en fait à faire les bons mariages éventuellement?
Oui.
Les bonnes rencontres entre acteurs.
C'est ça.
Et donc à dynamiser le...
Ouais. C'est essayer de faire la marieuse, c'est ce qu'on fait le plus Francia. Mais c'est aussi de donner de la lisibilité, parce que quand on débarque tout seul comme ça, justement, si on se dit on veut pas travailler forcément avec des grosses structures, si je veux travailler avec des petits et renforcer cet écosystème-là, comment je m'y retrouve? Qui sait faire quoi? Qui propose quoi comme solution? Mmh. Et c'est un gage de confiance aussi d'être référencé dans cette cartographie.
Et du coup, donc ça c'est du point de vue marieuse, comme vous disiez,
oui.
Mais si je suis un client, vous me disiez en préparant cette émission que vous aimeriez pouvoir faire cette même carto, mais avec l'entrée cas d'usage, c'est-à-dire que j'ai une problématique... Et vous pourriez aider celui qui a une problématique à identifier finalement les différents acteurs qui sont en capacité de répondre à sa problématique.
Oui, je pense que pour les profils petites structures ou PME, ETI, disons, c'est difficile de comprendre les technologies, de comprendre par secteur les startups qui pourront les aider, même en faisant cette cartographie-là. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui serait capable de faire un search assez classique, de dire j'ai besoin... j'ai un cas d'usage en recommandation, par exemple, de trouver le cas d'usage et les acteurs qui sont capables de faire ça. Et
est-ce qu'ils ont déjà fait avant?
Est-ce qu'ils ont déjà fait, en fait? En passant par le cas d'usage, c'est forcément plus simple pour ce type d'entreprise de trouver
Et ça risque de mettre peut-être plus le pied à l'étrier à beaucoup d'entreprises.
Oui, c'est ça, de comprendre en fait à quoi ça sert.
Ouais.
Oui, parce que sinon, c'est vraiment trop complexe. Et ça, c'est un test qu'on a fait dans le cadre du GPI, donc c'est le Global Partnership on AI, qui est un groupement de pays qui s'intéressent à l'IA et qui ont des groupes de travail sur ce sujet-là. Et donc, l'année dernière, on a fait un test d'une plateforme qui vise les PME et qui a à la fois un questionnaire de maturité en IA de la PME, un questionnaire pour filtrer les startups et qui dépose des cas d'usage.
D'accord.
Donc, si elles sont validées, on dépose des cas d'usage. Et donc, on a une vingtaine de PME en France qui ont fait le test. avec des retours plutôt positifs sur l'usage d'une telle plateforme.
D'accord, et donc ça pourrait mettre le pied à l'étrier à beaucoup d'entreprises françaises qui ne savent pas encore comment utiliser cet outil IA. Et d'ailleurs, la stratégie nationale, elle est forte dans cette... Oula, attention, stop, alerte générale. Nous avons du coup une nouvelle rubrique dans cette émission.
Une petite question,
c'est
Jérôme.
C'est la question de Jérôme.
Une petite question, Jérôme. C'est quoi un cas d'usage? Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret?
Une très bonne question.
Ça va être une mise en œuvre très précise d'une techno d'IA. Donc les cas d'usage, on peut avoir de la recommandation de produits, c'est ce qui fait beaucoup en e-commerce. Il y a la maintenance prédictive, dont elle est capable de détecter en avance de phase des problèmes sur une chaîne de production. On a aussi la détection de défauts sur des objets, un contrôle qualité. C'est tout ce qui va être automatisation grâce à l'IA de processus métier. Et puis on voit beaucoup apparaître en ce moment des cas d'usage sur les RH, tout ce qui est accompagnement des collaborateurs, détection du turnover, analyse automatique de CV.
En fait, on part du besoin et pas de la possibilité qu'offre la technologie.
C'est tout à fait ça. En fait, aujourd'hui, depuis très longtemps, en fait, le problème, ça a été de dire on fait joujou avec l'IA et on essaye d'identifier
ce qu'on pourrait faire avec.
Et en fait, nous, on parle avec beaucoup de PME, hein, parce qu'on accompagne la région Île-de-France sur un dispositif de financement des PME. Et on leur demande toujours, quels sont vos problèmes? Où est-ce qu'on pourrait vous aider pour améliorer votre productivité, pour accompagner vos collaborateurs? C'est quoi vos pain points? C'est quoi les services que vous pourriez proposer pour vous démarquer à la concurrence? Et une fois qu'on a la réponse à ça, on peut essayer de trouver où est-ce qu'on peut mettre de l'IA. On peut en mettre partout, mais le mettre juste pour rigoler, ça n'a aucun intérêt.
Même si, bon, c'est quand même des fois un peu rigolo. Si on parlait un petit peu stratégie nationale,
oui,
parce que on parle de la France et donc il y a une stratégie nationale. Elle est en deux phases. Il y a une première phase dans le renforcement des capacités de recherche 2018-2022, et là on est rentré dans la deuxième phase qui est former et attirer les meilleurs talents en IA. Et il y a pléthore de dispositifs. Comment vous percevez justement ces différents dispositifs du côté du hub France IA? Comment vous y contribuez? Comment vous insérez finalement dans la stratégie nationale?
Nous, on a une volonté d'accompagner cette stratégie nationale depuis la création de l'association, hein, puisqu'on avait travaillé sur le rapport Villani à l'époque. Là, on accompagne la coordination nationale pour diffuser justement l'information de l'existence de ces appels à projets qui permettraient justement à notre écosystème de grandir. Aujourd'hui, il est axé sur principalement la formation. Il y a 700 millions, je crois, de mémoires qui sont vraiment mis sur ce sujet de la formation pour accélérer. En particulier, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de former les métiers. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que l'IA reste une solution technologique qui est juste dans les mains des data scientists. Donc la volonté de créer de la formation dédiée aux métiers pour qu'ils deviennent plus connaissant, sachant sur le sujet de l'IA, je pense que c'est important pour qu'on arrive à grandir en France sur ce sujet-là. Et il y a d'autres appels qui sont plus orientés technologie. Là, on a vu sortir des appels à projets sur l'IA générative pour créer des communs, pour devenir un peu le champion européen de l'IAG. On a des financements par filière.
Communs qui pourront être en open source, notamment.
Oui. Et puis tout ce qui est
aussi... On aime beaucoup l'open source.
On aime beaucoup.
Chez Cause Commune.
On
a l'April qui a une émission sur notre antenne. Et donc on trouve qu'on s'appelle cause commune. Donc c'est pour ça que les communs, c'est quand même.
Hein. C'est vrai. Donc oui, je pense que ça c'est important. Et aussi ils ont tout ce qui est financement des puissances de calcul. Parce qu'aujourd'hui avec tous les LLM, les large language models, on a besoin de grosses puissances de calcul. Et si on est en retard là-dessus, on sera en retard sur tout.
D'accord. Donc pour vous, on a les bons compartiments qui sont visés pour que cette stratégie aboutisse en 2025. Alors ça va assez vite, hein, à quelque chose de mature et qui permette justement à la France de compter sur le paysage.
Je pense qu'il y a une bonne dynamique. Il y a le financement des PME, le financement des instituts de recherche, de la formation, la synergie entre tout ce qu'ils ont appelé les clusters de l'IA dans les régions, des regroupements académiques et de recherche. En fait, il y a une vraie volonté de financer tous ces acteurs pour les faire grandir et leur donner un rayonnement à l'international.
Ouais.
Et ça, c'est l'enjeu aujourd'hui. Si on veut briller, il faut vraiment y mettre les moyens.
Et là, vous parlez donc du coup de formation. Aujourd'hui, là, quand on regarde, dans le marché actuel des formations, il y a beaucoup de formations techniques. Pour le coup, on voudrait devenir data scientist,
il y a
ce qu'il faut dans toutes les langues, sur toutes les plateformes, avec dans toutes les universités, avec des certifications prestigieuses. Ok. Mais si je suis du métier, justement, si j'ai un métier en particulier, je veux mettre une petite pincée d'IA dans mon métier. Est-ce qu'il y a des formations que vous recommandez? Est-ce qu'il y a une formation en particulier que vous voyez qui dit tiens, ça c'est intéressant pour se mettre un peu le pied à l'étrier quand on est dans un métier et qu'on veut rentrer dans l'IA?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a justement un trou dans la raquette là-dessus. En général, la seule formation qu'on a identifiée parce qu'on avait travaillé dessus, c'était Objectif IA de l'Institut Montaigne.
Oui, qu'on trouve en ligne.
Voilà, qu'on trouve en ligne et qui a un moyen de comprendre ce que c'est que l'IA, mais ça resterait conceptuel et à destination plutôt du citoyen.
Formation gratuite, hein.
Formation gratuite, ouais. Oui. Et pour les métiers, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'il y a nos grands groupes, par exemple, ils ont monté des instituts en interne pour former leur métier.
Ouais.
Ils se sont associés à des organismes de formation qui leur ont monté des formations ad hoc.
D'accord.
C'est assez compliqué de trouver vraiment la bonne formation. Nous, ce qu'on aimerait faire au Hub, c'est de faire une sorte de mapping un peu des formations qui existent à destination de ces profils-là pour les aider, comme on fait avec la cartographie des startups, pour les aider à s'y retrouver. Et aujourd'hui, je pense que ça va être un travail de titan parce que c'est assez compliqué de les identifier.
Mais ça fait partie des projets que vous avez à court, moyen terme.
Oui, d'accord. À court terme, j'espère.
À court terme, d'accord, très bien. Et on est d'accord que finalement, ce qui manque le plus, c'est justement cet intermédiaire, cet hybride entre la technique et le métier.
Oui.
C'est ça la cible.
C'est vraiment ça la cible. Comme vous disiez, côté technique, il y a de quoi faire. Côté concepts généraux, il y a de quoi faire. Mais vraiment, se dire, quelqu'un du métier doit comprendre, comme on disait, les usages de l'IA et les technologies qui sont derrière, mais sans forcément en comprendre toutes les subtilités et les détails, il a juste besoin de comprendre comment ça marche. Ça, c'est un peu compliqué de trouver par soi-même l'information parce qu'il y a tout un tas d'acteurs qui font des petits tutos dans leur coin, mais rien de très officiel, en fait.
Ouais.
Donc, et puis, pour son métier, bien sûr.
Il faut être sûr que ça soit adapté à son métier.
C'est ça.
Oui.
Alors après, on peut toujours transposer. Mais c'est quand même un exercice qui est assez compliqué.
Là, vous auriez une PME qui vient de vous voir et qui vous dit voilà, j'ai un métier très précis. Pour l'instant, je suis vraiment pas. J'ai pas d'utilisation de techno IA. Comment je prends la vague? Ça serait quoi votre recommandation? Est-ce qu'il faut essayer d'aller voir ses concurrents?
En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Nous, des PME, on en a qui nous appellent toutes les semaines. Et dans le cadre de ce dispositif avec la région Île-de-France, et en fait, elles cherchent pas forcément toujours à mettre de l'IA, elles essayent de comprendre effectivement à quoi ça peut leur servir. C'est là où on discute finalement de leur problématique métier, leur problématique d'aujourd'hui, pour essayer de voir où est-ce qu'on pourrait mettre de l'IA. Et au lieu de leur dire allez vous former puis revenez plus tard,
ouais.
On leur dit passez à la pratique.
Ouais.
Faites un premier projet avec un prestataire de confiance, dans un cadre bien suivi et financé. C'est des projets qui font 3 mois.
Mmh.
C'est pas très long. Mmh. En sortie de ça, on a un MVP et on est capable.
MVP,
par la pratique,
c'est un test.
Oui, c'est une espèce de preuve de. Enfin, c'est une solution.
Une expérimentation.
Voilà,
quoi.
Une espèce d'expérimentation, mais à vocation d'être industrialisée par la suite.
D'accord.
Donc
testez-vous, en fait.
C'est ça.
Lancez-vous avec un acteur bienveillant.
Voilà. C'est ça, qui va vous accompagner, qui va être agile dans sa démarche et vous faire monter en connaissance de ce que c'est que de faire un projet de DIA. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça quand on est bien accompagné. Et on leur dit toujours, essayez pas d'internaliser. En tout cas, pas tout de suite.
Oui.
Parce que embaucher un data scientist pour qu'il soit tout seul dans sa cave, ça n'a strictement aucun intérêt.
Il sera triste.
Oui, il sera triste.
Un dernier point peut-être sur la réglementation et le contexte réglementaire. Si on parle d'IA Act aujourd'hui, donc l'IA Act, c'est ce qui est en train de se mettre en place, c'est la réflexion qui est en cours au niveau européen. Il y a des premières briques qui ont été un peu mis à la connaissance de tous. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion sur l'IA? Est-ce qu'on est bien parti? Comment vous envisagez les premières propositions de l'IA?
Alors, on est parti qu'on va l'avoir.
Oui.
Ça, il y a de grandes chances. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet, ça commence à faire un bail maintenant. Quand ils ont sorti, je crois que c'était en 2021, une première proposition, sur le coup, on a eu un peu peur. Et puis on voit qu'au fil du temps, ça commence quand même à s'améliorer, donc on est un peu plus confiant. Je pense que l'avantage de l'Europe là-dessus, c'est d'être un peu précurseur sur ces sujets de réglementation, de se dire que couplé à ça, il va y avoir probablement beaucoup de financement sur l'innovation, et qu'on voit bien que d'autres pays s'intéressent aussi à ce sujet-là. On sera plus tout seul, et avoir été les premiers là-dessus, je pense que c'était quand même une bonne idée de la Commission européenne. Maintenant, à voir comment est-ce qu'on accompagne les entreprises pour se mettre en conformité.
D'accord. On aura même réussi à parler d'IA Act. C'était Parlez-moi d'IA sur la question de la place de la France et de l'Europe dans le domaine de l'IA avec Caroline Chopineau, la directrice du Hub France IA. J'ai l'impression que vous avez réussi à nous rassurer sur la place actuelle et future de la France dans ce domaine. On peut vous suivre sur LinkedIn et sur votre site web. On attend avec impatience la cartographie